al regimului mai Lukashenko în Iatal. J'ai réduit totalement cette
situation. Moi, c'est terrible que vous voyez au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio Kapi qui vous propose ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Résurgence et persistance des cas des conflits communautaires dans les provinces du Nord Kivu, du Tanganyika, du Kasaï central et Kasaï oriental. Ces conflits, qui sont soit d'origine foncière ou du pouvoir coutumier, ont fait dans ces provinces des dizaines de morts, des blessés, des déplacés ainsi que des dégâts matériels importants. Quels seraient pour vous les mécanismes efficaces pour résoudre ces conflits? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour intervenir en direct. Mais le débat se déroule également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. La mise en onde de ce programme est assurée par André Mongou. Zilfez Abongonda est au standard. Jérôme Yobo est à la coordination et à la réalisation. Et Pierre et Lamé, je vous les présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Dans les territoires des Loubéros, dans la province du Nord Kivu, un conflit communautaire a fait près de 6 morts dans les Kasaï central, Kasaï oriental. Les conflits ayant opposé ceux qui sont appelés les miliciens du chef coutumier Kamuina Nsapu ainsi que les forces de l'ordre a fait des dizaines de morts depuis quelques mois, des centaines de déplacés, mais aussi des blessés. Dans la province du Tanganyika, les pygmées s'affrontent aux populations Luba, un conflit foncier avec l'endémie et l'exploitation des ressources naturelles, les chenilles, l'exploitation de la forêt. Ces genres de conflits qui dégénèrent et qui causent des morts, morts des personnes et aussi des déplacés, comment arriver à résoudre ces conflits? Quels sont les mécanismes efficaces qu'il faut mettre en place pour le faire? Voilà la question au centre de notre échange. Nous avons associé dans ces studios M. Edel Martin Kabutakapwa, président du réseau Jeunes dans le monde pour la paix et coordinateur de l'ONG internationale Pacte Christi. M. Edel Martin, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première fois que nous évoquons la question des conflits. Dernièrement, on vous a eu d'ailleurs au téléphone ou autour de cette question en évoquant les cas de cette situation du Kasaï avec ce qu'on a appelé les miliciens de chef comme Kamuina Nsapu. Nous avons parlé dans l'histoire avec les conflits ayant opposé les Nyilis dans la province de l'Équateur. Mais des cas, des conflits sont souvent récurrents dans notre pays. Comment on peut, d'une manière brève, expliquer ces différents conflits qui apparaissent par-ci par-là?
Ok, merci Pierrot Hermanger pour cette énième invitation dans votre studio, au niveau de votre radio. Je pense qu'il faudra commencer le tout par le commencement. Et surtout que l'émission a un caractère pédagogique. Il faudra que l'on sache, que l'on comprenne d'abord ce que c'est le conflit, parce que vous venez d'évoquer, il y a des problèmes de conflits fonciers, conflits communautaires, il y a des conflits politiques, autant de sortes. Mais je voudrais que l'on comprenne que les conflits d'hier, ou les conflits d'une façon brève, parce que vous l'avez dit, qu'est-ce qu'un conflit, qu'il soit communautaire, qu'il soit foncier, qu'il soit politique, qu'il soit quoi? Mais on dit les conflits, c'est d'abord la non-satisfaction à un besoin, à un intérêt, à une valeur. Donc nous pouvons classer le conflit en trois grandes catégories. Donc il y a des conflits de besoins, il y a des conflits de valeurs et il y a des conflits d'intérêts. Lorsqu'on vous revenez, on vous dit la personne, j'ai faim, je peux, mais qui m'attend peut-être à Pierrot, parce que moi j'ai faim, je mange lui, à manger chez lui, moi je n'en ai pas chez moi. Donc je peux entrer en conflit contre Pierrot,
parce qu'il mange seul, il ne veut pas partager avec moi. Mais je peux aussi entrer en conflit avec moi-même. Parce que c'est là que l'on va qualifier, parler de conflit interpersonnel et le conflit intrapersonnel. Donc, il y a un conflit entre moi et Pierrot, c'est interpersonnel, donc entre les individus. Mais intra, c'est à l'intérieur de moi-même. Parce qu'on peut comprendre le conflit ne peut pas exister seulement entre deux personnes, mais ça peut aussi exister entre l'homme. C'est comme ça qu'on arrive à des cas des homicides, quelqu'un peut se tuer lui-même lorsqu'il dit, il trouve que tout est devenu noir pour lui, il ne sait plus où aller, il peut prendre la décision. Je ne sais pas résoudre le problème des frais académiques de mes enfants. Mais où aller toquer tout ça? J'entre en conflit en moi-même. Donc c'est un conflit intrapersonnel. Mais lorsque ça se trouve entre les communautés, telle communauté, vous avez parlé en Tanganyika, les Pygmées et les Bantous. Donc, ça, c'est intercommunautaire, comme on dit, conflit entre les communautés. Et ces conflits peuvent être annexés même au conflit ethnique, au conflit identitaire. Donc, il y a une ethnie, il y a une identité, donc il voit que son identité est menacée. Donc, je suis pygmée, mais je vois que non, en tant que pygmée, on ne veut plus de pygmée, donc notre identité est menacée. Je fais tout pour défendre mon identité. Donc, ça devient un conflit identitaire, un conflit communautaire entre eux. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Là, c'est un problème et il faudra que l'on analyse, qu'on comprenne, parce que les gens ne se réveillent pas le matin et on dit un conflit naît subitement, il devient communautaire. Non, c'est un conflit qui a commencé quelque part, un conflit de besoin. Lorsqu'il n'est pas résolu à temps, l'on sait qu'on n'attache pas beaucoup d'importance, ces conflits peut quitter. Au lieu d'être de besoin, il devient un conflit interpersonnel, donc entre les individus. Et lorsqu'on ne sait pas l'arrêter à ce niveau-là, il peut devenir un conflit communautaire. Comment le dire? Je peux donner un exemple pour me faire bien comprendre. Moi, nous tournons du groupe de je parlais la fois passée d'un enfant et d'une potière et d'un voisin. Donc l'enfant est là, une potière à faire, sa marmite, et l'a séchée sur le soleil. Et l'a mis au niveau du soleil pour que ça puisse sécher. Et immédiatement, un oiseau qui est là, l'oiseau vient se poser sur la potière. Bon, il vient se mettre sur la marmite. Et l'enfant du voisin qui était là, qui voit l'oiseau, curieux, l'enfant c'est la curiosité, il n'avait pas d'intention d'aller casser la marmite de l'autre. Il va, l'enfant prend un bâton, il va chercher à taper sur l'oiseau. Et subitement, l'oiseau s'envole. Et le bâton touche sur la marmite. La marmite se casse. La maman, la propriétaire qui attendait, qui devait vendre sa marmite, curieuse, vient, va gifler l'enfant du voisin. La maman du voisin regarde, mais comment il a giflé. La maman vient. Un combat vient. Et le mari de l'autre, il voit pourquoi on dit, il vient et l'autre. Donc, lorsque deux personnes sont en conflit, ils peuvent chercher maintenant des alliances. Donc, je peux être là, Pierrot va venir. Non, moi, je suis Katangais, je suis de Chikero. Quand on attaque Pierrot, on n'a pas payé Pierrot. Au lieu de voir que le problème, qu'est-ce qui était à la base, Pierrot n'est pas payé, peut-être Pierrot n'a pas travaillé. Moi, je vais me réfugier derrière mon identité pour dire, si on ne m'a pas payé, c'est parce qu'on ne veut pas, par exemple, des bananes plantées. Moi, je suis banane. J'évite de citer les ethnies pour qu'on dise qu'on parle.
Voilà.
Je peux parler des bananes comme une ethnie, de bananes plantées ou de quoi encore on peut dire des iams. Je suis iams, je dis non, on ne veut pas de ça. Au lieu de dire on ne m'a pas payé parce que je n'ai pas travaillé,
mais moi, je vais me réfugier, voilà.
Oui, à mon identité. Donc, je vais maintenant faire appel à toutes les bananes plantées pour que les bananes plantées soient derrière moi et on va faire une coalition contre maintenant celui-là parce que celui-là a aussi son identité et c'est comme ça que ça vient. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, il faut faire beaucoup d'attention. Lorsqu'un conflit, lorsqu'on n'essaie pas d'analyser en profondeur pour arrêter, pour résoudre de façon pacifique les conflits, le conflit peut dégénérer.
Et beaucoup de cas de conflits que nous avons évoqués dans cette émission, souvent c'est parti d'un champ, c'est parti d'une organisation d'un chef coutumier, et après on se rend compte que ça emballe tous les villages, et puis on arrive à des cas de mort, le pouvoir public va intervenir, peut-être qu'on a vu avec les Kassai, dans l'espace Kassai, avec ces fameux dossiers comme dans sa peau, où des militaires sont partis intervenir, alors des armes sont intervenues, alors à un certain moment, on se rend compte qu'au fil et à mesure qu'il y a des interventions, le conflit aussi a tendance à s'amplifier. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui dans notre société, que ce soit du côté du pouvoir politique, de l'approche même de l'analyse du conflit?
Oui, mais vous comprendrez que pourquoi c'est tous les coins d'entrée du pays. Pourquoi ça vient de tous les coins? Donc il y a un mécontentement général. Et il faudra comprendre, comme je dis, parce qu'il n'y a pas de solution magique dans le sens si nous pouvons donner d'une façon générale, parler des causes et de la façon de les résoudre. Mais on sait que chaque conflit a sa propre façon, disons, d'être résolu. Mm-hmm. Donc il faudra interroger, il faudra voir l'historique de chaque conflit en tant que cas particulier pour parvenir à les résoudre de façon profonde. Mm-hmm. Donc quand je parlais un peu de trois grandes classifications, là, je veux parler du problème des conflits de besoin. Un conflit de besoin qui est là, on regarde quel est le besoin. Et c'est parmi les conflits les plus faciles à résoudre. Mm-hmm. Donc il suffit, vous arrivez chez vous, l'enfant se fâche, il commence à dire non parce qu'il a faim. Mais quand vous lui donnez à manger, il fait quoi? Il va très se fâcher. Il ne peut pas se retourner contre vous. Il y a un conflit, comme j'ai dit, de l'intérêt. Donc quand je regarde, je dis non, Pierrot va être nommé premier ministre parce que Pierrot c'est mon frère, Pierrot c'est cela. Donc je sais que derrière cette nomination, moi, il y aura des avantages dans le cadre de pouvoir. Parce qu'on dit aujourd'hui, vous savez, pourquoi les gens se battent, pourquoi les gens se tuent, parce que chacun veut avoir quelque chose. Donc le problème d'avoir, l'avoir, toute personne veut avoir. Et lorsqu'on n'a pas quelque chose, comme ça qu'on peut aller chez les autres. Là, la Bible le dit. Je ne suis pas passé, on va vous dire, mais pourquoi il y a des problèmes entre vous? Pourquoi il y a ceci? Nous désirons, mais nous ne possédons pas. Lorsqu'on désire et qu'on ne possède pas, on peut entrer en l'autre. On peut entrer en conflit avec l'autre.
Et le troisième, rapidement, pour qu'on écoute aussi les auditeurs.
Oui. Et le troisième, c'est comme je disais là. Mais maintenant, l'avoir, il y a aussi, l'avoir appelle maintenant aujourd'hui le pouvoir. Beaucoup de gens ont cru que lorsqu'on a le pouvoir, on a l'emprise sur l'avoir. C'est comme ça que l'Indosier, là, je parlais un peu du conflit d'intérêt pour dire lorsqu'on a le pouvoir, on sait qu'on aura maintenant la mainmise sur tout ce qu'il y a comme bien dans le pays. Mais le dernier, comme je parlais, c'est le conflit des valeurs. C'est le conflit le plus difficile à résoudre parce que c'est là où entre la philosophie, tout ce qu'il y a, on peut même y mettre le problème de l'opposition, la majorité. Donc ce qui se voit comme valeur chez moi, ça peut être anti-valeur chez toi. Donc il est difficile de dire, et même au niveau des religions, c'est ce qui divise les gens. Vous verrez aujourd'hui les catholiques et les musulmans. Vous entrez chez les musulmans, à une mosquée, on peut y entrer avec les chapeaux, mais on enlève les souliers. Mais chez les catholiques, c'est le contraire. On entre à l'église, on y entre avec les...
On appelle le conflit des valeurs.
Oui, ça c'est dans le cadre du conflit de valeurs. Et qu'est-ce qu'il y a pour résoudre un tel conflit? C'est question de rapprocher les uns et les autres à la compréhension de ce qui les retiennent que je
vois la valeur. Alors cette question des conflits, elle est très importante. Je crois que tous les conflits qui surviennent en RDC, hein, on a parlé du Kassai, on a parlé du Nord Kivu, on a parlé de Tanganyika, dans l'île Katanga. Alors, ça dit que le problème aujourd'hui, c'est d'avoir aussi l'approche. Parce qu'au niveau du pouvoir politique aujourd'hui, pouvoir public, on a toutes ces approches quand on veut s'attaquer à ces différents conflits. C'est ce qu'on va voir ensemble avec vous. 081-890-6315 pour intervenir en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaga. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi, bonjour à l'invité.
Voilà, on vous écoute. Comment on peut arriver aujourd'hui à mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre ces différents conflits qui surviennent à travers le pays?
Bon, vous voyez, vous avez d'ailleurs oublié une contrée où les conflits sont toujours récents et habituels dans les temps courts. Vous voyez, aujourd'hui, les leaders politiques, plus particulièrement, les leaders politiques au socle du conflit aujourd'hui. Les gens de tel et les gens de tel. Par exemple, les chômeurs dans les centres. Il n'y a pas plus longtemps, nous avions, quand je suis président d'une dissidence des étudiants ressortissants de notre contrée, nous avions même écrit au chef de l'État pour assister les leaders du sang qui venait toujours instrumentaliser la population pour que la population puisse s'entretuer entre elles. Vous allez voir, vous êtes leader de tels politiciens. Donc, les gens de tels politiciens, les gens de tels politiciens, les conflits fonciers, les conflits de, entre les gens des savanes et des brousses, ça ne nous amène nulle part. Et moi, je trouve que la meilleure solution aujourd'hui pour éradiquer à ces phénomènes, il faut qu'il y ait la restauration de l'État. Les policiers sont placés dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a des bavures qui se commettent dans un terroir, à ce moment-là, les policiers représentant l'État doivent faire les choses de bonne façon. Arrêter ceux qui causent ce genre de fléaux et les sanctionner à titre d'exemple, de donner exemple aux autres qui peuvent revenir avec le même système. Parce que les politiciens aujourd'hui, après avoir été élus, ils partent à Kinshasa, ils jurent avec leur cortège, mais ils laissent les indigents s'entretuer entre eux. La chose qui n'est pas bonne.
Merci beaucoup, maître Jean-Paul. Et là, vous avez mis l'accent sur la manipulation, les conflits qui naissent de conflits, disons, d'intérêt, l'intérêt politique, hein, le rôle des leaders politiques dans beaucoup de conflits aujourd'hui. Vous avez donné les cas du Sankourou, où vous êtes même adressé au chef de l'État pour qu'il tienne à l'œil, hein, les leaders politiques. Alors, vous estimez que là, on doit restaurer l'autorité de l'État, mais il faut sanctionner, hein, les auteurs de ce genre de conflits s'ils se recrutent parmi les leaders politiques, par exemple. Merci beaucoup, maître Jean-Paul. Professeur Ignace, merci d'être avec nous. Vous êtes à Colisée dans les Lualaba. Bonjour, professeur.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je crois que c'est un sujet très, très important. Je vais l'aborder d'abord en parlant, en premier lieu, de la gestion telle que c'est fait de communautés locales et ce rapport avec le pouvoir public. J'ai comme l'impression que dans la gestion des affaires de l'État, souvent, on semble oublier le droit de minorité. Savoir que dans chaque communauté, il y a des peuples autochtones, il y a aussi des communautés locales qui doivent bénéficier au même titre les unes et les autres des avantages dans la distribution de revenus contre les activités de l'État ou tout ce qui est exploité sur le terrain. Mais il y a aussi un problème, la relation entre le pouvoir coutumier et le pouvoir public. Il semble que souvent, le pouvoir public de nos jours a tendance à marginaliser le pouvoir coutumier, et ce qui fait une certaine méfiance de certaines autorités coutumières qui cherchent d'une manière ou d'une autre à s'exprimer ou à se prévaloir. Alors, il y a, ça c'est un premier aspect, mais il y a maintenant au niveau de la recherche des solutions, il me semble aussi que souvent, on considère ceux-là qui causent des dégâts, par exemple, qui tuent, comme directement étant fautifs. Mais dans l'analyse, on peut trouver des minorités qui sont fortes, qui sont marginalisées, et des majorités faibles. Lorsque la minorité réagit dans sa faiblesse, réagit dans sa marginalisation, elle peut causer des dégâts terribles. Alors, quand l'État arrive pour résoudre le problème, directement, on pense que ceux-là qui ont tué, directement, sont fautifs. Je ne pense pas que cette approche soit correcte. Il y a aussi un autre aspect, l'implication des partis dans la recherche des solutions. Qu'est-ce qu'on voit? Quand il y a un problème, est-ce qu'on prend tout le temps d'écouter si fautif soit-elle, de toutes les parties, si fautif soit-elle, excusez, ces parties, pour que chacune s'exprime et qu'on analyse en profondeur. Mais je crois, que voit-on? On voit des gens qui viennent de Kinshasa avec des analyses purement théorique et scientifique sans voir les réalités de terrain, on applique la loi, le droit et automatiquement certaines personnes sont sanctionnées sans qu'on ait au préalable écouté ceux qui vivent les réalités de terrain. Je pense que l'implication des partis, la réconsidération des différentes communautés, une éducation citoyenne et l'implication des agents d'éducation, je pense ici aux écoles, à l'église et aux communautés locales, mais aussi au pouvoir politique à bien cerner le problème du terrain tel qu'il se présente. Voilà, c'est vrai comme moi, je vois.
Merci beaucoup, professeur. Cette dimension est importante parce que chaque fois, quand on voit des fois comme on peut envoyer des leaders politiques pour aller dans une province résoudre un conflit, alors ça dit qu'on met en place des mécanismes de résolution des conflits sans pouvoir associer les acteurs de ces conflits. Ça, c'est une dimension très, très importante, mais qu'il faudrait ne pas aussi considérer peut-être que ceux qui ont été à la base du conflit sont d'office déjà condamnés, ils sont fautifs. C'est-à-dire qu'il faut cette approche, cette analyse au niveau du pouvoir public qui est impliqué dans la résolution des différents conflits qui sont et qu'on enregistre à travers le pays. Merci beaucoup, professeur Ignace, pour ce point de vue. Jérôme, vous êtes à Bouya. Merci d'être avec nous, Jérôme. Comment, d'une manière efficace, on peut arriver aujourd'hui à résoudre les différents conflits qui surviennent à travers le pays?
Enfin, merci pour la parole d'abord, hier. Moi, je personnellement aborde les conflits dans le sens qu'il est beaucoup plus respirable dans notre contrée. D'une manière générale, la province de l'Ituri, le conflit le plus récurrent dans la communauté, c'est les conflits fonciers, et de fois ces conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais néanmoins, la vie à la communauté des hommes est régie par la loi. Tous ces conflits proviennent lorsque la loi ne l'a pas vraiment bien dit. Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute, Jean.
Oui. Ok. Ce qui se passe dans notre milieu, comme je l'ai dit beaucoup plus, c'est dans le cas des conflits fonciers. C'est-à-dire, le conflit traduit une sorte d'indice de satisfaction de la communauté ou des groupes vis-à-vis de certaines actions. Moi, je parle plutôt de l'ordre public, parce que chez nous, on est toujours davantage. C'est beaucoup plus lorsqu'il y a problème entre des communautés, entre des personnes. Et à dernier rempart, on a l'habitude de recourir à la justice. Maintenant, lorsque la justice est dite, souvent, soit en faveur ou en défaveur, la considération de la justice a été rendue par la communauté, souvent ne pas dans les sens peut-être de la loi, où la loi n'a pas été dite telle que le fait se sont passés dans le milieu, et ça crée cette difficulté. Moi, je pense, à ce qui concerne principalement des conflits tels que les conflits fonciers, il est toujours bon, avant de rendre justice ou de prendre des décisions, d'abord de consulter ceux qui habitent sur cet espace-là. Parce que le gens tels que la population est répartie dans le milieu géographique, ils sont là, ça fait très longtemps, les gens connaissent comment ils vivent, comment sont les limites. Et quand il y a problème, à l'interne, ils peuvent trouver des solutions. Mais dans le nombre de cas, comme il a été toujours dit, la justice congolaise est comparable au vieux filet qui n'attrape que de fretter, laisse passer les gros poissons. Il arrive des fois, lorsque vous n'avez pas les moyens pour financer la justice, alors à ce moment, la justice vous délaisse. On accorde la raison peut-être à celui qui ne le méritait pas. À ce moment-là, cette satisfaction se manifeste même dans la communauté par une forme de revanche. On ne fait plus confiance à l'autorité. On voudrait soi-même se rendre justice. Et toute une population est impliquée maintenant dans un conflit qui, au départ, si bien géré, ne pouvait pas arriver à des circonstances ou à un moment que ça crée un problème. Mais je pense à Mbouliveau. Et qu'il faudrait, chaque fois qu'il y a conflit intercommunautaire, commencer par écouter cette communauté-là, chercher à connaître la genèse de ces conflits, et si localement il n'y a pas solution, et proposer des pistes pour aller à la justice, où la justice doit en partie se référer une sorte de jurisprudence de cette communauté-là, pour qu'on trouve une solution durable. Parce qu'au départ, ce n'est que des incompréhensions qui terminent par des conflits des fois violents.
Alors, merci beaucoup, Jérôme. Hein, mais qu'en évoquant la justice, vous avez dit de vous-même qu'il arrive des fois qu'une partie n'accepte pas la décision de la justice. Et là, le rôle de la justice risque même aussi d'être celui d'avoir jeté l'huile sur le feu. Et pourtant, dans la plupart des conflits, si la justice elle-même ne s'y prend pas bien, on risque de transformer les bourreaux en victimes et les victimes en bourreaux. C'est ce qui arrive plusieurs fois. Mais du moins, la partie importante dans votre intervention, vous avez insisté sur le fait d'écouter ceux qui sont impliqués dans les conflits, d'analyser la genèse et de voir comment on peut trouver des solutions. Merci beaucoup, Jérôme. Dadou et Guillaume, vous êtes à Bandundouville. Merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour, Dadou. Dommage, on a perdu Dadou. Alors, nous allons revenir à notre invité tout à l'heure. 081-890-6315 pour intervenir en direct. 081-890 pour intervenir en direct. Mais n'oubliez pas aussi que les débats sont en train de se dérouler en ce moment même sur les réseaux sociaux et particulièrement la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, qui de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi, une balade.
Alors, Edel Martin Kabutakapa, vous avez suivi les compatriotes. Il se dégage une préoccupation. Il y a d'abord les satisfactions, vous l'avez déjà évoqué. Mais dans les pistes et les solutions, il y a par exemple le professeur Ignace, tout comme Jean-Paul, qui sont revenus sur l'implication de personnes eux-mêmes, qui sont auteurs ou bien qui subissent les conflits plusieurs fois, et qu'on les associe pour dégager les pistes et les solutions. Mais il y a quand même Jérôme qui a ajouté la justice, j'ai vu sourire quand il a évoqué les rôles de la justice dans la résolution des conflits.
Oui, merci Pierrot, merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui sont intervenus pour donner leur point de vue. Et je pense qu'il se dégage de toutes ces interventions qu'il faut la formation à la gestion positive des conflits. Parce que vous savez, on appelle, que ce soit chaque fois les gouvernants au niveau de la base, si c'est l'administrateur du territoire, on envoie n'importe qui, quand ils vont, au lieu qu'une solution soit trouvée, c'est comme tu l'as dit là, c'est comme si ce sont des gens qui sont allés jeter de l'huile au feu. Et donc, les conflits ne doivent pas être gérés par n'importe qui. Et je pense que ça doit être une préoccupation pour le moment, que ce soit lorsqu'on forme et des cabinets politiques, il faudra que l'on pense quand même à la gestion, à la formation, aussi bien des conseillers ou de tous les autres membres, à la gestion positive des conflits. Je souris. Parce que tu vois un peu ce que l'ami a évoqué, le cas de Annie Touri, celui de Bounia, quand il parle des agriculteurs et des éleveurs. Pourquoi ce conflit-là est qualifié de foncier? Ce n'est pas par rapport à l'élevage, mais c'est par rapport à la terre. Parce que le conflit foncier, qui dit conflit foncier, dit ce qui est lié à la terre. La terre, c'est à la fois une source importante pour l'homme. Nous avons besoin de la terre pour survivre. Mais c'est aussi quelque chose qui est à la base de beaucoup de conflits. Lorsque les gens ont besoin d'un lopin de terre et qu'ils n'en ont pas, ils se dégagent un conflit. Et ici, au niveau des éleveurs et des agriculteurs, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez, le plus souvent, pour ceux qui font les gros bétail, l'élevage du gros bétail, donc les éleveurs, les agriculteurs ont cultivé, mais quand les gens viennent avec leur bête, ils vont les poser dans les champs, ils vont ravager les champs. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive. C'est un conflit que moi, personnellement, je me souviens en 2007. J'ai eu quand même à conduire une délégation internationale au Tchad, au niveau de la ville de Moundou, où nous sommes allés, nous étions des stagiaires à l'Université de paix en Afrique, nous sommes allés pour gérer ce conflit. C'était le même conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Nous avons trouvé une solution qui, jusqu'à aujourd'hui, je pense, sont présents d'or. Et les gens nous appellent, nous avons des rapports, dans le sens qu'ils avaient besoin d'aller chaque fois aller vers la justice. Mais la justice n'avait jamais trouvé solution à ce problème. Quand nous sommes allés, parce que c'est là que j'ai dit qu'il faut l'apprentissage à la gestion positive, oui, constructive des conflits. Le conflit en soi n'est pas mauvais. Mais même le conflit en soi n'est pas bon. Mais c'est la résolution, la gestion, la solution que l'on trouve à un conflit qui va lui donner un caractère soit positif, donc lorsqu'il est bien géré, soit négatif, lorsque le conflit est mal géré et a des conséquences fâcheuses sur la communauté. Et au niveau, dans le cas d'espace entre éleveurs et agriculteurs, nous avons trouvé un moyen de collaborer. Et qui parle de la construction, de la gestion constructive du conflit, trouve qu'est-ce qui peut être fait entre les deux, pourquoi les gens se disputent. On avait trouvé, comme je le dis, et là nous avons interrogé les gens, nous sommes allés, nous avons écouté. Bien sûr que le problème des langues, se poser parce qu'on est une équipe internationale, c'est qui parlait l'anglais, le français, mais aussi pour écouter la communauté locale qui parlait dans leur dialecte, il fallait traduire. Et tout ça, ça nous a pris du temps, mais on a trouvé une solution. Dans le sens, c'est quoi? Les agriculteurs s'attaquaient aux éleveurs parce qu'ils venaient ravager leurs champs. Les éleveurs avaient besoin de choses qui restent dans l'agriculture pour nourrir leurs bêtes. Mais les agriculteurs avaient aussi besoin de déchets de bêtes pour fructifier la terre, pour produire davantage. Et ça, c'est intérêt d'entendre que l'on pouvait trouver pour que ces gens se mettent ensemble pour trouver une solution. Et ils ont fait ce que nous avons fait, et nous avons mis sur place des comités de gestion de conflits entre agriculteurs et éleveurs pour leur dire, désormais, ils ne pouvaient plus aller vers la justice. On ne peut aller vers la justice qu'en cas de problème, c'est-à-dire lorsqu'il y a infraction, lorsque le sang a coulé. Mais lorsqu'on a ravagé, donc, dans un comité, lorsque le président est représentant des agriculteurs, le vice-président est représentant des éleveurs. Dans le sens qu'ils devaient trouver solution entre eux-mêmes et qu'ils devaient collaborer parce que chacun a besoin de l'autre. L'agriculteur a besoin de déchets de bêtes pour fructifier les sols et l'éleveur a besoin de déchets des agriculteurs pour nourrir les bêtes. Et qu'il y avait moyen maintenant qu'il puisse gérer un peu. Et ce qui a été fait, et je pense que ça marchait. Mais ici, quand les amis ont dit qu'il faut impliquer les bénéficiaires ou la communauté locale, parce que c'est elle. Vous allez trouver solution, vous allez rentrer. Mais les gens vont rester vivre. Ce sont eux qui, à partir de la décision qui a été prise, donc c'est une mauvaise décision, je pense que ce sont eux qui vont en souffrir. Mais si les gens avaient été associés et que la situation proposée ou la solution trouvée n'achante pas, donc ils seront conséquents envers eux. Mais si c'est vous qui avez imposé cette solution, ils vont
se dire. Quand on regarde, par exemple, oui, voilà, il y a eu des conflits, par exemple, dans la province de l'Équateur. On en a évoqué la fois passée avec les Émirés. Les Émirés, c'était parti d'un étang de poissons, et il y a eu des affrontements. On le regarde aujourd'hui dans l'espace Kassai avec ces fameux dossiers de chefs comme Inansapou. On voit la force militaire utilisée sur terrain en face des gens qu'on dit être armés, avoir des flèches, des lances. Alors, est-ce que l'approche, quant au niveau de l'intervention, faudrait-il aujourd'hui impliquer les gens dans une discussion alors que les gens ont déjà recouru à la violence, ou alors quelle sera l'attitude du pouvoir politique dans la gestion de ces genres de conflits quand les gens ont déjà recouru à la violence?
Très bien, Pierrot, vous posez la question de ce qu'on peut appeler la réponse. Quelle est la réponse qu'il faut donner au conflit? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a deux grandes réponses à un conflit. Donc c'est soit la voie pacifique, donc la non-violence, on utilise d'autres voies, soit c'est la violence. Parce que ça soit la violence, c'est là que nous disons, si aujourd'hui les gens prennent les armes et ils vont, en prenant les armes, en s'attaquant à Pierrot, ça ce n'est pas le conflit, ça c'est la réponse au conflit. Le conflit lui a existé avant. Donc souvent les gens font la confusion, ils ne comprennent pas, ils ne font pas la différence entre le conflit et la violence. La violence est une réponse à un conflit qui a existé, comme je dis, les gens étaient insatisfaits, mais quelque chose qui a existé. Peut-être que par distraction, on n'a pas, ou même par les gens qui disent, bon, ils ne se préoccupent pas de ça, ils le restent. C'est comme ce matin, une parenthèse, j'étais en train de suivre sur mon lierre, j'ai vu les gens de Sampil au niveau de Mongafoula qui ont brûlé le feu pour dire la population, il y a une érosion qui est là, ils avaient invité l'État depuis très longtemps, on n'a pas, il y a eu beaucoup de dégâts, les gens sont morts, des maisons se sont écroulées. Aujourd'hui, ils se sont révoltés, ils se sont mis sur la place publique pour dire comme on ne répond pas à notre vie. Donc ça sont des choses faciles à un certain moment, qui pouvaient être résolues à un certain moment. Les gens sont insatisfaits de quelque chose, mais comme on ne se préoccupe pas d'eux, ça va prendre une autre dimension. Et que c'est cela même quand on vient avec des mouvements insurrectionnels. Nous disons le plus souvent notre État n'intervient pas à temps pour mettre fin à la cause. Donc c'est tardivement, et tardivement là, il va dépenser des gros moyens alors qu'il aurait dû dépenser peu de moyens pour résoudre le problème. Un problème d'érosion comme celui-là, c'est un problème qu'il fallait voir avec que ce soit l'office de route ou l'autre, voir dans quelle mesure pour calmer les esprits. Mais si aujourd'hui les gens trouvent, non, nous mourons, l'État ne se préoccupe pas, il les regarde dans notre direction, et qu'aujourd'hui ça va comme ça, et qu'il y aura des morts, qu'est-ce que, quelle est la réponse de l'État maintenant? Envoyer les militaires pour attaquer la population. Je pense que c'est là que nous disons il faudra qu'il y ait beaucoup de conseillers au niveau du gouvernement pour aider notre gouvernement à gérer ce genre de conflit. Parce que ça, ce n'est pas la solution. Et ce qui est grave, c'est que ce soit la réaction non violente, comme nous voyons avec l'opposition, on va mater, on va réagir. Donc, est-ce que l'État ne veut pas que les gens réagissent lorsqu'ils se trouvent insatisfaits devant quelque chose, ou, disons, lorsque les gens prennent les armes, on va toujours réagir. Et ceux qui ne prennent pas les armes, ils réagissent à leur façon. Vous avez dit avec les élections, que ce soit aux États-Unis, je ne veux pas y aller. Les gens sont en paix au niveau de la route. Nous disons, il faut laisser quelqu'un manifester. Donc, si quelqu'un est en colère, il faut les laisser s'exprimer. Et d'ailleurs, en s'exprimant à certains moments, c'est déjà une partie des solutions. Parce qu'il s'est épuisé. Tout ce qu'il avait. Mais quand vous allez vous dire, ne parle pas, ne parle pas. À un certain moment, au lieu d'apaiser, au lieu de rigoler, vous êtes en train de faire davantage.
Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on devait avoir au niveau du pouvoir public, du gouvernement, des experts vraiment qui sont associés à tout moment pour gérer un conflit.
Et trouver des solutions durables à ces gens.
À ces gens de conflit, voilà.
Parce que comme ils l'ont dit, la voix, on n'associe pas la population. C'est un problème de démarche. C'est un problème d'approche. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre le conflit? Donc vous allez, croyez que vous allez résoudre, mais vous allez amplifier davantage les conflits. Les conflits, en fait, ils peuvent aider à se développer. Parce que nous, on sait, les experts à la question des conflits vous disent qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'Empire romain d'Occident. On vous dit que la disparition, là, c'est dû au manque de conflits. Donc, une société aussi où il n'y a pas de conflits, c'est une société qui ne peut pas évoluer. Donc, les conflits, en soi, n'est pas destructeur comme on le croit, mais les conflits peuvent être à la base d'un développement d'une communauté, d'une société, lorsqu'il est bien exploité. Et
on peut arriver à trouver des solutions plus efficaces. Voilà. C'est pourquoi il faut arriver vraiment à former les gens autour de la résolution des conflits et les associés, pourquoi pas dans les cabinets, comme vous l'avez dit. Poli Malala, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Voilà, vous avez suivi notre invité, il insiste beaucoup sur la formation, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce que c'est au niveau du pouvoir public, qui sont envoyés pour résoudre les différents conflits, comme on l'a vu à travers nos provinces, et ils n'ont pas la maîtrise de l'approche dans l'analyse, et même l'analyse des sources, des causes, et les solutions qu'il faudrait proposer aujourd'hui. Alors, d'une manière plus efficace, qu'est-ce qui peut être fait pour lui?
Ok, j'ai remercié d'abord la Radio Capi pour avoir organisé cette émission à l'heure où il fallait. Normalement, pour moi, je sais que le chef de l'État venait de nommer, et c'est seulement là, une dame qui est chargée de violences sexuelles. Pourquoi il ne s'est pas aussi nommé à ses côtés là-bas un monsieur qui sera chargé de conflits, de résoudre la question de conflits coutumiers? Parce que c'est ça d'abord la solution pour moi. Parce que je comprends que c'est une question qui est vraiment d'actualité. Prenons par exemple, il y a une ambassade des territoires ou des ministères de. Parce que les entités territoriales des entités centralisées. Ce sont ceux-là qui sont en train de rendre un service, c'est-à-dire à l'intérieur, par exemple. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas avec. Ah, qui est ça? Prenons par exemple le cas qu'on fait. Qu'aujourd'hui ou demain, vous allez entendre.
Oui, voilà, là on a des petits soucis polis, Malala, avec votre ligne, vous êtes ici à Kinshasa, mais vous auriez souhaité voir le chef de l'État, comme on l'a fait avec les conseillers spéciaux chargés des questions des violences sexuelles, il y a un conseiller spécial chargé des questions de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment des capitaux, qu'on ait aussi un conseiller spécial du chef de l'État qui est chargé des questions de résolution des conflits, parce qu'on a beaucoup de conflits aujourd'hui, et peut-être que la dimension des conflits pourrait être abordée d'une autre manière. Dommage pour la ligne téléphonique. Nous faisons un bon à Kindou dans la province de Maniema. Stéphane, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute Stéphane. Comment on peut arriver à résoudre les questions les conflits d'une manière efficace dans notre pays?
En tout cas, merci. Votre invité m'a déjà balayé en gros. Et je veux seulement dire que son problème est le problème aussi qui est du Maniema. Parce que les conflits de valeurs dépassent même les conflits d'intérêts. Dans les valeurs, quand on ne maîtrise pas le système de valeurs d'un individu ou bien d'une communauté, là c'est très très difficile. Heureusement qu'il a déjà balayé par rapport aux besoins, qui veut répondre à quoi prioritairement par rapport à l'autre. Mais l'inverse donne toujours des conflits. Et c'est ce que nous connaissons au Maniema pour le moment. Et je le disais toujours, même quand il y avait CNDP au Nord Kivu, je disais toujours que le Maniema n'est pas moins que le Nord Kivu en insécurité. Que notre insécurité est latente. Alors, j'aimerais ajouter qu'il faudrait combattre l'ignorance dans les systèmes de valeurs de tout un chacun. Parce que pour le système de valeurs, peut-être quelqu'un va dire que bon, on commence par Dieu, nous tous ne connaissons pas, en fait, nous connaissons cela à Dieu. Et on croit, par exemple, à telle autre chose, telle, chacun est libre. Quelqu'un d'autre peut dire que je crois au fétiche, et je crois, je ne sais pas moi, à l'église ou quoi. Mais quand on est dans le sens inverse, il peut y avoir toujours des conflits. Et des conflits qui seront toujours latents. Et la cause qui n'est pas cause peut devenir comme cause alors que ce n'est pas la cause. La vraie cause est qu'on est différent dans les systèmes de croyances. Alors, il faudrait mettre, combattre d'abord cette ignorance-là, et tout un chacun, qu'on soit en mesure de s'accepter, que chacun, il a déjà parlé de ça, que chaque communauté accepte l'autre, et qu'on sensibilise même ceux-là qui sont les acteurs. Il l'a dit, parce que ceux-là qui sont les acteurs, c'est là où je voudrais ajouter, sont parfois innocents, ils ne savent pas les vrais motifs, les faits mobiles du conflit. Ils viennent seulement répondre tout en ne sachant pas. Eux, on leur crée un autre conflit pour le susciter. Donc, c'est un élément capacitaire pour qu'ils soient agissants et qu'ils soient forts pour répondre par rapport à un nous collectif. Non, on nous attaque, nous les ici, par rapport à eux de cela. Et ça, c'est très, très grave. C'est ce que je voudrais dire. Je voudrais
merci beaucoup.
Pour qu'il y ait vraiment une solution durable. Quand on a déjà parlé des politiques, les politiques parfois viennent toujours après. Chacun vient se confirmer. Ni de moi, vous ne seriez pas sauvés. Et là, on récupère l'électorat. Mais parfois, les conflits sont spontanés et on vient maintenant l'habiller. Pour contourner les
problèmes. Problème. Merci beaucoup Stéphane. L'intérêt de la formation, de la sensibilisation, l'autre invité le disait tout à l'heure, qu'il y ait des gens qui sont vraiment formés dans ces questions des gestions des conflits, sinon on pourra avoir des solutions qui sont prises au niveau du pouvoir public, mais qui en réalité ne résolvent pas les problèmes, mais plutôt amplifient les problèmes. Merci. Pacifique, merci d'être avec nous de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, je salue également les auditeurs ainsi que l'invité.
C'est un plaisir pour nous.
S'il vous plaît.
Oui, je disais que c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore dans cette question liée au conflit. Vous étiez intervenu la fois passée avec beaucoup plus de méthodologies, mais qui malheureusement, comme le disait notre invité tout à l'heure, sont ignorées par la plupart des gens qui sont chargés de gérer, de résoudre les conflits dans notre pays.
Tout à fait, Pierrot. Moi-même, je suis formateur sur la gestion des conflits. J'ai parcouru le Tchad, Centrafrique, Mali. Je suis tout à fait d'accord avec le collègue invité qui est là. Il est impossible de bannir le conflit, Pierrot, parce que le conflit nous amène aussi à un certain moment un changement positif. Hein, le conflit peut donner des opportunités de comprendre qu'il y a eu des problèmes qui pouvaient se dégénérer et il y a lieu de pouvoir les normaliser. Là, je suis tout à fait d'accord avec l'invité, mais il y a le conflit également violent et c'est que tout le monde ne fait pas. Nous ne voulons pas les conflits violents parce que ça n'amène rien, ça n'amène que des destructions, tout ça. Alors, il y a l'invité a dit quelque chose de très, très important. Il n'y a pas de développement sans formation, Pierrot. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui descendent sur terrain. Bon, ils ne maîtrisent pas la chose et ils veulent encore compliquer plus les gens sur terrain. Comment on peut arriver à faire la gestion des conflits sans pour autant associer les belligérants? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Alors, il y a également les gens qui descendent du terrain, ils viennent faire la gestion des conflits tout simplement. Or, la gestion des conflits, c'est un tout. Et dans ce tout-là, il faut les morceler. Il y a ce qu'on appelle la transformation des conflits. Et la transformation des conflits devient maintenant à ce moment-là une étape vraiment avancée. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Si vous arrêtez à ce niveau-là, vous n'aurez pas à satisfaire les belligérants. Il faut descendre encore jusqu'à ce que vous arrivez à la résolution des conflits. À ce moment-là, vous devez utiliser également des approches.
nous avons plus ou moins, nous avons beaucoup d'approches. À l'occurrence, la justice, la négociation, le dialogue, la conciliation, la médiation, l'arbitrage et tout ça. C'est au médiateur de voir quelle est l'approche qu'il faut utiliser pour réellement donner satisfaction au progrès des sous-terrains. Dans le cas aujourd'hui, si vous cherchez à prendre par exemple l'arbitrage, non, vous n'allez pas résoudre le problème. Vous prenez par exemple la justice directement, vous n'allez pas résoudre le problème. Est-ce que vous avez pensé d'abord à la conciliation, au dialogue, à la médiation et tout cela? Géraud, il y a un problème très très important, parce que quand on défend sur le terrain, les négociateurs elles-mêmes oublient qu'il faut faire, qu'il faut avoir un questionnaire clé d'une analyse de cause de conflit. Ça, on oublie. Pourquoi le conflit a-t-il commencé? Quelles sont les causes profondes, structurelles, sécuritaires, politiques, économiques et sociales, et fait que l'invité a dit, les besoins peuvent même créer plus de problèmes sans que les gens se rendent compte que c'est le besoin ici. Moi, j'ai eu besoin de sel, on m'a amené des bougies, pendant que j'habite une île, ça va brûler ma maison. Ça peut aussi créer des conflits. Quels problèmes peuvent être considérés comme les causes profondes ou immédiates du conflit? Quels éléments déclencheurs peuvent contribuer à l'éruption ou à l'intensification du conflit?
Alors, Pacifique, en vous écoutant, Pacifique, je me rends compte que c'est tellement global, c'est très profond, que là, ça évoque même l'idée d'avoir des structures permanentes qui font le travail d'une manière permanente, qui font la cartographie en amont des conflits dans notre pays et qui proposent et qui peuvent déjà agir pour dire mais attention, dans tel contexte, avec telle zone politique, telle zone sociale, on peut avoir tel conflit. Cela veut dire là, ça demande que des spécialistes puissent avoir des structures permanentes qui n'existent que pour sa pacifique.
Oui, justement, parce que aujourd'hui, l'État congolais n'en a pas, il n'y a pas de structure. Et aujourd'hui, il n'y a que les organisations internationales qui essaient un peu d'aider afin qu'on trouve des solutions sur des questions comme ça. Il n'y a pas de structure de manière permanente. Je crois que si votre invité est là, vous pouvez me dire le contraire. Moi, j'ai élevé avec cette Common Sound et nous sommes allés en tant qu'Afrique, on a donné vraiment, on a évité des problèmes entre les chrétiens
et les musulmans.
Et ça, on a évité de ces problèmes. J'ai participé également à leur dialogue comme technicien sur la communication pendant les dialogues. On a fait un très très bon travail. Mais ça devait être aussi un travail permanent d'héros. Même ici chez nous, ça ne devait qu'être permanent. Raison pour laquelle on ne peut pas se développer sans la formation.
Et ça, c'est très important.
Merci
beaucoup, oui. Pacifique. La formation est très importante. Il faut avoir des structures permanentes. Avant d'écouter Georges, qui est à mon nom, et Prudence, qui est écologiste et analyste à Ecologie, nous revenons à vous, Delmartin, que vous êtes encore placé, justement, par rapport à ce qui va venait d'être dit par les compatriotes. Puis on va écouter les deux derniers auditeurs.
Merci, Pierrot. Je pense que je suis d'accord avec Pacifique, tout ce qu'il a dit. Je voudrais peut-être rectifier une chose. Lorsqu'il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ou il a condamné les conflits violents, je voudrais peut-être rappeler aux collègues qu'il n'y a pas de conflits violents. Les conflits n'est ni violents, ni lents, ni pacifiques, comme on le dit. Nous disons que le conflit, il est toujours net. Donc, il n'y a pas de conflits violents, mais il y a des réactions violentes à un conflit. Donc, ce qu'on a vu là, lorsqu'il y a déjà des armes qui crépitent, nous disons et nous
répétons une réaction violente à un conflit.
Disons, le conflit n'a jamais été violent. Le conflit, lui, est là, il a commencé, sauf qu'on s'est rendu tardivement compte de la présence de ce conflit. Et en réagissant, lorsqu'on a vu les gens réagir, on a compris qu'il y a le conflit, mais on ne peut pas du coup comprendre qu'est-ce qui est à la base de ce conflit ou quel est réellement ce conflit-là. Les armes qu'on se donne des coups de machette, les machettes, ce ne sont pas des conflits, ça ce sont des réactions au conflit, c'est ce que je te dis. Je suis tout à fait d'accord lorsque vous parlez un peu qu'il faut avoir des structures permanentes. Je pense que nous avons une expérience pilote au Kasaï. Au Kasaï, ce que nous avons vu, à l'instar de ce qu'on a fait ailleurs, ce que nous appelons les noyaux locaux de médiateurs bâtisseurs de paix. Nous avons essayé un peu de mettre ça dans chaque territoire. Là, c'est dans le cadre en tant que structure de gestion des conflits. Nous avons mis nos structures, et je pense dans les témoignages, même dernièrement quand nous avons appelé une évaluatrice externe qui était venue de Kinshasa, on a trouvé que nos gens qui étaient venus de l'intérieur ont dit, ça c'est une solution, quand on avait des problèmes, on allait à Canada, mais on ne trouvait pas de solution. Aujourd'hui, il y a des populations qui font recours, même les chefs coutumiers, à nos noyaux ou aux représentants de nos noyaux pour résoudre leurs conflits et leurs conflits. Mais le mal, c'est que jusque-là, l'État n'a pas encore pris conscience de ce travail qui est en train d'être abattu par les gens et qui sont dans les villages. Parce que si on a ces gens de façon permanente, et comme nous disons aussi même au niveau du cabinet, on forme un cabinet politique, on forme aujourd'hui, il y a un gouverneur qui le fait, mais au niveau de chaque, parce que l'ami, je félicite celui de Kinshasa, qui l'a dit, il faut qu'on puisse nommer aussi un conseiller auprès du chef de l'État. Non seulement auprès du chef de l'État, je pense partout, parce que les conflits sont partout, que ce soit à l'école, que ce soit dans des familles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand vous allez en France, vous trouverez, il y a ce qu'on appelle la médiation scolaire. Donc, pour résoudre les conflits qui est entre l'enseignant, entre l'élève et entre les autres. Voilà. Donc, au niveau même des familles, pour les réconcilier, il y a la médiation familiale pour les faire. Donc, il faudra aussi, dans tout, que ce soit dans chaque société, je pense aujourd'hui, c'est une urgence que l'on forme le médiateur, que l'on forme les gestionnaires des conflits.
Voilà, on va écouter Georges Kessamanono et Prudence Akolézi pour terminer avec vous. Georges, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute Georges, en une minute parce que là on est après de terminer l'émission.
J'avais beaucoup à dire malheureusement, je viens d'intervenir à la fin. J'aimerais dire que dans notre territoire de Manono, dans les dernières années, il y a des conflits entre les Kishnais et les Parisiens. Il y a des parties de ces terres dans notre territoire où la présence des Bantous ou des rennes dangers rouges, parce que les Kishnais et les Bantous se croisent, vous voyez déjà qu'il y a l'insécurité qui se propose en ce moment. Alors, et ce que je remarque, M. Pierrot, l'État intervient tardivement lorsqu'il y a des conflits. Nous avons constaté qu'il y a aussi les éléments de départ, mais l'État était intervenu lorsqu'il y avait des morts entre les deux parties. Alors, ce que j'aimerais demander à notre gouvernement est que lorsqu'il y a les conflits qui se présentent dans un endroit, et l'État doit intervenir un peu rapidement pour essayer.
Avant, pour éviter qu'il y ait des morts et que l'État vienne intervenir après. Merci beaucoup, Georges. On écoute aussi rapidement Prudence qui nous appelle de Colusie. Merci d'être avec nous. Hein. Vous avez suivi les uns et les autres en une minute et demie aussi votre intervention dans cet échange, Prudence. Prudence, vous êtes avec nous? Oui, Prudence, on vous écoute.
Oui, justement. Moi, je voulais quand même placer un mot. Je me dis ceci. Au lieu de parler, de nommer des gens, des émissaires, tout ça, pour la gestion des conflits, si chacun faisait convenablement son travail, ça ne servirait à rien à ce moment de nommer des spéciaux. Ce serait faire un double travail. C'est-à-dire, en principe, il faudrait qu'on ait des gens compétents. On travaille avec des gens qui sont compétents. Chacun dans son domaine. Parce que, bon, quand vous parlez des conflits, il y a aussi des crises qui engendrent des conflits. Vous pouvez avoir des crises écologiques, tout comme on en connaît ici, écologiques.
Oui.
Allô?
Oui, on vous écoute plus tard.
Et lorsque c'est des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne se gèrent pas bien sur le plan des compétences et des services qu'ils doivent rendre, on finit justement par déboucher sur les crises. Moi, je pense que le problème n'est pas de nommer des gens qui doivent gérer les crises, mais des gens compétents qui doivent bien travailler.
Et quand ces gens travaillent bien en amont, c'est qu'ils mettent en place des mesures qui vont faire à ce que les gens soient satisfaits. Et comme ça, on agit en amont pour éviter qu'un conflit puisse s'écrire dans une contrée.
Oui, justement, un travail bien fait en amont évite la crise en aval. Je voudrais, si vous permettez, que je sois juste un petit mot.
Oui, placez
par exemple le cas d'écologie.
Oui.
Avec les crises d'ordre environnemental parfois que nous connaissons. Ces crises ne sont pas dues par le comportement des exploitants, mais c'est dû du fait que ces exploitants ne sont pas surveillés, il n'y a même pas de contrôle, il n'y a pas des audits, ils sont libres, ils font tout ce qu'ils veulent. Alors, à ce moment-là, comme personne ne les contrôle,
et ça finit par déboucher par des crises. Du fait okay,
voilà.
que ce qui a été prévenu.
Comme le disait tout à l'heure en début d'émission, notre ami maître Jean-Paul Dimbandata, qu'il faut vraiment qu'on sente l'autorité de l'État. C'est dans des cas comme ça où les entreprises qui exploitent et qui polluent l'environnement, on ne sent pas qu'ils sont contrôlés. Et si on arrive à bien les contrôler, parce qu'il y a des hommes capables qui font le travail, ça peut arriver à prévenir ces genres de conflits. Merci, vous avez été nombreux, mais n'oubliez pas que les débats se poursuivent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Edel Martin, on revient à vous. Moi, il se dégage vraiment dans cette émission qu'il y a une nécessité de former les gens dans ce domaine de gestion de conflits, et vous en profitez pour conclure cette émission.
Oui, il y a cette nécessité, et je pense même dans le cas d'espèces en ce qui concerne la nature ou l'environnement. Et on vous dit, il y a le conflit maintenant entre l'homme et la nature, lorsqu'on ne respecte pas aussi la nature. Et je pense que il y a même M. Labbé, spécialiste en la question des conflits, qui dit, lorsque vous n'écoutez pas la nature va vous forcer maintenant à l'écouter. C'est comme le problème d'érosion. Lorsqu'on vous dit non, la quantité d'eau qui doit tomber ici. Et, disons, la terre a besoin d'une petite quantité. Quand vous consultez, vous ne faites pas des canaux. Et lorsque la terre va réagir pour dire l'homme m'a mal utilisé, maintenant il est réagi. C'est comme ça qu'il y a le conflit entre l'homme et la nature. Il y a cette nécessité, et je l'ai dit, partout où vivent les hommes, les conflits sont là. Le conflit est inévitable. Parce que l'ami de Colosie dit l'essentiel n'est pas de nommer les gens. Nommer les gens, même les conseillers, là, son problème n'est pas seulement de résoudre, mais aussi, ça serait aussi de prévenir les conflits. Lorsqu'on sent ça, ça peut nous amener. Donc, lui aura l'œil de voir les conflits comme qui dirait mieux vaut prévenir que guérir. Il y a autant de problèmes, et je pense que la conclusion, c'est cela. Lorsqu'on aura formé tout le monde, et qu'on sait que chacun saura dans sa classe là où se trouve, vous êtes journaliste, mais on sait aussi qu'entre les journalistes, il peut y avoir des conflits qui surgissent. Donc, les journalistes ont été formés à la gestion des conflits. Il y a lieu qu'entre là, ils trouvent solution au lieu d'aller avec ce problème à l'extérieur. Et l'on sait qu'il y a des animateurs ou même au lieu d'aller vers la justice, ils vont trouver pour prévenir et garder leur bonne relation au lieu qu'on s'accuse pour dire il m'avait fait mal.
Merci.
Et moi, je vais le faire aussi.
Merci beaucoup, Edel Martin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes expert en la question des conflits, coordonnateur national du réseau Jeunes dans le monde pour la paix et représentant du réseau Pax et Christi international dans les Kassai. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question des conflits, que ce soit au pays ou bien à l'extérieur. Merci, vous avez été nombreux à contribuer dans cette émission dont le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. On se retrouve le lundi pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Merci à André Mongou qui était à la mise en nom de Jérôme Gembo, à la réalisation et la coordination. Julie Fézabongonda était au standard. Et Pierrot Elamé, je vous ai présenté ce magazine sous la supervision de Martin Seboujan. Pour le moment, nous vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir. Thank you.